Merci. Je tiens à remercier Marie Ballas et aussi toute la comité d'organisation de cette belle journée d'échange et pour moi aussi apprentissage. Je vais vous présenter en fait nos travaux avec de ma part et de la part de Marjane Machecour du Muséum d'Histoire Naturelle sur quelques réflexions sur la contribution des coprolites, la palynologie en fait des coprolites dans la reconstitution paléo-environnementale. C'est un travail qui est le résultat de plusieurs collaborations entre les laboratoires français et les laboratoires iraniens. Alors, les coprolites d'Hyène sont du matériel bioarchéologique et aussi paléoécologique très important. Pourquoi ils sont importants? Parce qu'en fait, ils ont un grand potentiel de fossilisation. Et pourquoi? Parce qu'ils contiennent beaucoup d'hydroxyapatite. Et donc, on sait que c'est parmi des rares carnivores ou charognards, si vous voulez, qui sont capables de digérer les ossements. En fait, ils donnent énormément d'informations sur la végétation du passé et aussi la composition floristique de cette végétation quand on étudie les grains de pollen, les restes végétaux et les phytolites. Quand on étudie bien l'ADN ancien dans les coprolites, on peut non seulement savoir l'origine de cet animal, l'animal qui a laissé la coprolite, mais également le régime alimentaire de l'animal. Ils fournissent aussi de l'information sur la présence des parasites et aussi sur l'histoire taphonomie d'un site. Alors, dans ce cahier de charges publié dans le Journal of Archaeological Science par le chercheur français, il propose un protocole en fait, d'étude des coprolites et aussi une série de techniques, de disciplines qui peuvent étudier les coprolites, dont la palynologie, qui sera le sujet de cette présentation. Pour avancer, je vous propose deux cas d'études, un cas d'étude sur les coprolites fossiles et un cas d'étude sur les fesses actuelles de hyènes. Les deux cas se passent sur le plateau iranien. Le cas fossile, il s'agit en fait de coprolites qui proviennent d'une grotte qui s'appelle la grotte de Vezmeh. Cette grotte se trouve au centre des montagnes du Zagros, à l'ouest d'Iran. Il est connu surtout pour un article qui a été publié il y a quelques années qui propose en fait pour la première fois en fonction de l'ADN fossile, bien sûr, humain, qui montre qu'on avait une voie d'expansion de l'agriculture ou de la néolithisation vers l'Est. Alors, nos collègues ont récolté pas mal de coprolites issus des fouilles clandestines et aussi des fouilles systématiques qui ont fait l'objet de notre analyse pollinique. Alors, je vais résumer. C'est un diagramme pollinique qui montre les résultats des spectres polliniques de quatre de ces coprolites. Pourquoi quatre? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que dans les coprolites fossiles, ils contiennent pas tous du pollen. Donc, on a pas mal de coprolites qui sont presque stériles. Quand on regarde généralement l'ensemble de ces spectres polliniques, on voit qu'ils sont dominés par les plantes stépiques et surtout l'armoise. Donc, on a affaire à des coprolites qui sont majoritairement de l'âge de la dernière période glaciaire et qui nous montrent un paysage très ouvert des steppes irano-touraniennes très froid et sec. Mais peut-être la chose la plus marquante dans nos découvertes, quand on a produit ces spectres polliniques, c'était la présence très abondante des plantes très rares. Alors, les palynologues qui m'écoutent dans la session Odile Perron, ils savent que il faut être un palynologue très très chanceux de trouver peut-être une ou deux fois dans sa vie s'il arrive à identifier les pollens de tulipes. C'était le cas de certains de ces coprolites avec énormément de pollens de tulipes, Eremurus, Lidestep et aussi d'autres plantes. Quand on compare en fait les spectres polliniques issus des coprolites avec les spectres polliniques qui viennent de sédiments lacus ou des tourbières, ce que les palynologues quaternaires produisent systématiquement, on voit quelques différences. En fait, on a l'impression que les spectres polliniques des coprolites, ils donnent des instantanés de la végétation du passé. Donc, ils montrent la végétation sur un intervalle de temps beaucoup plus court que ce qu'on voit, qui est une moyenne peut-être annuelle, même pluriannuelle, dans les sédiments lacustres ou des tourbières. Et la deuxième, c'est que ça nous donne la possibilité d'aller plus loin dans la précision taxonomique et découvrir des plantes qu'on trouve presque jamais dans les sédiments lacustres. Et aussi, l'autre fait, c'est qu'en fait, ils ont vécu en fait, des processus et une histoire taphonomique très différente des sédiments lacustres. C'est pourquoi il faut aller voir les fesses actuelles avant de la fossilisation et un peu comprendre comment ça se passe. Alors, avant ça, une chose très importante, c'est de savoir que la manière là où le pollen est incorporé dans le sédiment, dans un coprolite, est très différent de manière là où le pollen est incorporé dans le sédiment palus, lacustre ou tourbière. Le pollen, normalement, il y a plusieurs voies d'intégration du pollen dans les coprolites, les hyènes. Et ce pollen peut être carrément le pollen qui est contenu dans la tube digestive des herbivores qui ont été mangés par les proies de cet animal, des hyènes. Ils se mettent à manger des fleurs, donc ils peuvent aussi avaler directement les pollens. Ils boivent de l'eau, il y a toujours du pollen dans l'eau. Et une étude montre que, en fait, ils passent, ce n'est pas des sales animaux, ils passent plusieurs minutes par jour pour se nettoyer. Donc, aussi, c'est un autre moyen d'incorporer le pollen. Et aussi, une fois que, les fesses sont déposées, il y a les pollens toujours qui collent sur le coprolite. Ces processus sont très différents de ce qui se passe dans le sédiment lacus, qui font l'objet de transportation alluviale ou éolienne. Alors, là, je vous propose le deuxième cas d'étude. Donc, toutes ces questions-là qu'on a eues pour comprendre le spectre pollinique fossile de Besmé nous a fait que pourquoi pas faire une étude actualiste sur les fesses hyènes actuelles. Donc, pour cela, on a choisi le modèle animal de hyène rayée, Hyena hyena, qui est très présent sur le plateau iranien et sur l'ensemble du sud-ouest. Et comme la zone d'étude, on a choisi le site Kaftor Khun. Kaftor en persan, ça veut dire hyène, et Khun, ça veut dire maison, si vous voulez. Donc, la maison ou le nid de hyène. Et qui fait l'objet d'une publication juste l'an dernier dans Review of Paleobotany and Palynology. Alors, juste un petit rappel sur les hyénidés, la présence d'unités sur Terre. On a quatre espèces de hyénidés sur le continent eurasiatique et africain. Les quatre espèces se trouvent sur le continent africain. Et le hyène rayé, c'est l'espèce qui a une aire de répartition le plus importante sur l'Afrique du Nord et l'ensemble de l'Asie du Sud-Ouest jusqu'à l'Asie centrale et la péninsule indienne. Comme fossile sur le plateau iranien, vous voyez à droite, on a trouvé le seul site là où on a trouvé la présence des hyènes, en fait les restes des ossements des hyènes, c'est dans la grotte de Vesmé, là où on a présenté les coprolites. Et on a deux espèces de crocuta, hyène tachetée et hyène rayée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Caucase, il y a quelques années, une étude génétique a montré qu'on pourrait avoir aussi le hyène brune sur cette zone. Donc, l'histoire de hyène, la présence d'hyène dans cette zone du sud-ouest de l'Asie, c'est très intéressant. Alors, le hyène rayé, Hyena hyena, c'est une espèce presque near threatened dans IUCN, en danger. C'est une espèce qui a une aire de répartition très large. Et regardez quand vous comparez la carte à droite qui montre la zone, en fait, la ceinture désertique de l'hémisphère nord. Et l'aire de répartition de l'animal, vous voyez une correspondance très intéressante. Pourquoi je vous montre ça? Parce que justement, cette zone en Afrique du Nord, un peu au Moyen-Orient jusqu'à l'Asie centrale, c'est une zone dont les archives sédimentaires qui sont propices à faire des analyses polliniques ou des études paléoécologiques sont très, très rares. Donc, les coprolites de cet animal sont vraiment une mine d'or pour si on arrive à en tirer des informations sur le paléoclimat ou la paléovégétation. Alors, notre zone d'étude, Kaftor Khun, se situe entre les montagnes du Zagros à l'ouest et le plateau central iranien. Donc, vous voyez, bien que les paysages sont très steppiques, c'est des steppes typiquement irano-touraniens, dominés par plusieurs espèces armoises, aussi des espèces irano-touraniens. Et vous voyez aussi, le climat est un climat méditerranéen, mais de type très désertique et continental. Et la saison sèche dure plus de 7 mois. Les hyènes ont tendance à construire leur nid dans ces formations travertineuses ici, parce qu'on a ce qu'on appelle en géomorphologie l'érosion différentielle. Les couches qui sont plus dures forment une sorte de toit, et les couches un peu marneuses, ils s'en vont. Donc, ils ont tendance à construire leur nid là-bas. On a choisi une dizaine de fesses presque actuelles ou subactuelles pour notre étude. Donc, vous voyez ici la photo qui avait une bonne condition de conservation pour le pollen. Voilà le diagramme pollinique simplifié de ces fesses. Comme vous voyez, on a l'ensemble de ces spectres montrent une végétation très ouverte, dominé par des steppes d'armoises et steppes buissonnantes déserts dominés par les arbustes comme Calligonum pteropyrum. Vous voyez aussi, ici, on a aussi remarqué la présence des espèces très, très rares comme Punica, en fait, grenadier, comme Fumaria, Fagonia, Hypecum, des espèces qu'on voit rarement, vraiment rarement dans les sédiments lacustres ou des tourbières. Alors, aussi, ce qui est très intéressant, c'est que l'ensemble, presque tous les spectres polyniques étaient dominés par les plantes anthropogéniques, d'origine anthropogénique. Quand on a fait une ACP, on s'est rendu compte qu'on peut regrouper nos fesses dans quatre environnements complètement différents. Dans les steppes de montagne du Zagros, dans les steppes désertiques buissonnants, dans les ergues, en fait, les déserts du sable, dans les points d'eau, les sources ou les zones humides, et également, surtout, dans les zones très, très anthropisées. Alors, ce qui était intéressant, le dernier cas, c'est qu'une étude qui a été faite par Marjane Machecour et Hervé Monchaud, publiée en 2009 ou 2010, montre effectivement qu'on a l'ensemble des assemblages d'ossements de ces sites montre une présence très importante des animaux domestiqués ou les animaux qui sont liés aux activités humaines. Ils ont proposé, et nous proposons d'ailleurs aussi, que cet animal a maintenant un style de vie très commensal, donc il est très dépendant à l'homme. Alors, pourquoi il faut déposer les données des fesses, les données en fait des spectres polyniques de fesses actuels, et où il faut les déposer? Alors, pourquoi déposer? Parce qu'on a vu que c'est très important, ces coprolites sont des sources très importantes pour comprendre la paléovégétation, surtout dans les sédiments des grottes. Ils font un terrain commun entre l'archéologue et les paléoécologues et même les écologues. Et on a fait une étude juste pour se faire une idée combien les palynologues ou les archéologues se sont intéressés depuis les dernières années à la copropalynologie. J'utilise le terme copropalynologie proposé par Jacqueline Argan, je trouve intéressant. Et en fait, on montre qu'il y a de plus en plus d'études, les palynologues qui s'intéressent à ce type de matériel, surtout qui se trouve dans les zones semi-arides. L'ensemble d'informations polyniques qui produisent sur la végétation du passé est très complémentaire à ce qu'on trouve dans les archives sédimentaires. Et finalement, on peut comparer les coprolites, la contenue polynique coprolite, avec la contenue des fesses actuelles. Donc, pourquoi? Parce qu'on a des points en commun. Par exemple, comme dans les deux cas, on a de la présence des espèces rares. Donc, on peut utiliser effectivement les fesses actuelles comme un référentiel pour comprendre le passé. Et on a vu dans la présentation d'Odile Perron, il a utilisé les spectres polyniques de surface pour la reconstitution paléoclimatique. Mais la même chose peut être envisagée, en fait, pour utiliser ces spectres poliniques de coprolites de fesses actuelles pour interpréter effectivement les stratigraphies anciennes des pollens, des diagrammes polyniques, en fait, basé sur les coprolites fossiles. Alors, les coprolites ont aussi leurs points de faiblesse, bien sûr. Il y a des problèmes. L'un des problèmes, c'est que ce n'est pas parce qu'on a trouvé un fesses ou un coprolite qu'on va avoir du pollen. Non, il y a toujours un sur deux ou des fois un sur trois coprolites qui sont stériles. Donc, c'est pourquoi ils donnent presque rarement une stratigraphie comme dans le sédiment lacustre ou dans les tourbières. On s'est rendu compte que plus le coprolite est vieux, moins on a des chances d'obtenir des pollens. Mais quand même, ça reste un matériel intéressant. Il y a plusieurs bases de données mondiales qui peuvent héberger en fait, les données fossiles et également les données actuelles de coprolite. Ici, je donne trois exemples que vous connaissez. European Pollen Database à gauche, dont le data manager travaille dans notre laboratoire, donc c'est très facile à intégrer nos données. Il y a aussi Neotoma et Pangea, la base allemande de Pangea, bien sûr, qui peut être utilisée. Alors, je vous montre ce diapo, quelques belles images. On a fait quelques campagnes de terrain très récemment dans les déserts au sud de Téhéran, entre Téhéran, Kashan et le grand désert dans l'Iran central. On s'est rendu compte que ces nids de hyènes se trouvent partout. Et on s'est rendu compte que effectivement, dans certains de ces nids, on a même des nids fossilisés, on a des séquences à droite, vous voyez, on a des gisements qui sont sur 2 ou 3 mètres, plein des ossements, des coprolites. Donc, on a envisagé de faire des fouilles paléontologiques et bien sûr, aller à échantillonner et essayer de construire une stratigraphie en fait, des changements de végétation dans ces régions et aussi réfléchir ensemble comment ensuite interpréter et exploiter le mieux ces données. Et ici, on a fait un peu copier-coller quelques questions qui étaient posées dans le texte accompagné de l'annonce du colloque. Alors, la première question, c'était doit-on constituer un référentiel actuel pour modéliser et comprendre les événements, les mécanismes du passé? La réponse est que oui, et il faut le faire. Dans notre jeune discipline de copropalynologie, on a vu effectivement qu'on avait besoin d'aller étudier le référentiel actuel pour comprendre comment interpréter les données fossiles. Et on a trouvé aussi les analogies entre les FSS actuels, les spectres pollinique des FSS actuels et le coprolite qui nous permet, en fait, qui justifie pourquoi il faut faire ces études. Alors, la deuxième question, la création du référentiel n'emprunte-t-elle pas un modèle préétabli? En fait, la construction d'un référentiel copalynologique va suivre la même démarche que la construction, en fait, du référentiel pollinique actuel pour interpréter les données fossiles qui sont dans les sédiments. Donc, on a déjà une idée comment le faire. Et ensuite, le référentiel permet-il véritablement de réduire l'éventail des paramètres possibles menant à l'état, in fine, à l'état observé? Oui, on pense que oui. On a vu effectivement que étudier en fait l'étude actualiste qu'on a fait nous a montré que les FSS pollinique, en fait, ce qu'on trouve dans les FSS actuels nous aide beaucoup à comprendre. À mieux comprendre en fait les spectres, mieux interpréter les spectres fossiles. Et on a vu que on a une diversité d'écosystèmes qui sont reflétés dans les deux cas. On a vu qu'on a une composition floristique de végétation qui est mise en évidence avec plus de détails dans les deux cas. Et on a vu qu'en fait, les coprolites sont très intéressants parce qu'ils donnent des informations sur la saisonnalité du climat et aussi la phénologie des plantes au passé et au présent. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Mortiza. C'était vraiment très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions sur cette présentation? Alors, Eva Maria, est-ce que tu levais la main pour une question?
Oui. Est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Oui, donc je veux bien apporter une petite correction à votre belle présentation pour corriger un peu les référentiels dans ce cas-là, les prédateurs, donc les hyènes. C'est mon équipe qui a fait cette étude d'hyènes à partir des coprolites d'hyènes dans la cave, dans la grotte de Dazoc. En
Ah
fait,
oui.
il ne s'agit pas d'une hyène brune. C'est une
Ah.
étude qui a montré qu'il faut être vraiment très prudent avec l'interprétation des résultats. Donc, on aurait pu penser que c'est une hyène brune, mais c'est une contamination à partir de faisces d'hyènes brunes d'Afrique du Sud.
D'accord,
Donc,
merci.
juste pour que vous.
D'accord, merci beaucoup pour la précision.
Et nous allons prendre une question par Odile Perron.
Oui, donc bah, moi je suis très très contente d'avoir assisté à cette présentation. On nourrit vraiment cette présentation m'a réjouie parce que je vois qu'on a quand même
Merci.
de plus en plus finalement de proxy. Donc même si la science est très très jeune et même s'il y a des limites, il y a quand même vraiment de l'espoir. Et ce qui, moi, me réjouit le plus là-dedans, c'est de voir qu'on va peut-être arriver enfin à avoir un marqueur saisonnier. Donc ça, je pense qu'on en a, nous, vraiment besoin. Et je me posais juste la question, est-ce que tu as regardé finalement, est-ce que tu as comparé des échantillons de sol, bon, de mousse, je pense qu'il n'y en a pas, mais des échantillons de sol qui te permettraient de regarder la végétation actuelle et de comparer en fait ces spectres polliniques avec tes spectres issus des FSS de Yann.
En fait, non. Pour dire la vérité, non. On ne l'a pas fait encore, mais on envisage de le faire, comparer effectivement aussi une comparaison de ce qu'on trouve dans les mousses, par exemple le sol ou les mousses, avec ce qui se trouve dans les FSS. Et cela va nous donner une idée effectivement sur la temporalité ou la saisonnalité, la durée de représentation en fait de ces fesses. Mais ce qu'on a envisagé surtout de faire, c'est d'aller échantillonner les fesses frais dans les saisons différentes et comparer ça avec la végétation. C'est ce qu'on envisage avec Marjane de faire. On va essayer de le faire sur les nids actifs en fait, de l'animal dans les zones. C'est un animal très timide, vous savez très bien. Donc, il faut vraiment faire gaffe, ce n'est pas facile. Si on va visiter son nid, peut-être il ne reviendra pas. Donc, il faut faire gaffe pour ça. Mais aussi, l'autre possibilité, c'est d'aller voir le parc zoologique, là où il garde en fait, l'animal. Et aussi, voir si on ne peut pas mettre en place un protocole d'échantillonnage des fesses. Parce que la végétation autour de ces parcs change aussi. Donc, on va voir comment la phénologie est reflétée dans les fesses et la durée, en fait, de la représentativité. On ne connaît encore presque rien sur comment le pollen est incorporé, en fait, dans leurs fesses. Donc, c'est vraiment une discipline vraiment très nouveau. Donc, notre travail, l'éditeur de la journal Review of Paleobotany, José Carillon, était très content parce qu'il disait que ça n'a jamais été fait, en fait, sur les fesses actuelles. Donc, c'est quelque chose vraiment à envisager de faire avant d'aller échantillonner, étudier les fossiles.